Elle était annoncée depuis longtemps, la semaine universelle de prière, rencontre de protestants et évangéliques pour bien démarrer l'année dans une communion fraternelle, dans les rencontres entre communautés et frères et sœurs. Cette semaine universelle de prière 2016 porte comme thème, qu'est-ce que vous pensez de qu'est-ce qui pouvait être le thème? Exactement, le retour des fils perdus. Et la petite différence par rapport à cette parabole que Jésus raconte en Luc chapitre 15, c'est que le fils est écrit en pluriel, les fils perdus. Et on pourrait ajouter même les filles, mais c'est pas dans la parabole ni dans l'image. Donc aujourd'hui va commencer la première prédication sur ce thème de cette semaine universelle de prière, le retour des fils perdus. Finalement, ce sont trois prédications. La première, je vais vous donner aujourd'hui. La deuxième va être donnée par le pasteur Ossan de la communauté des groupes bibliques universitaires dimanche prochain. Et c'est moi qui prêchera le même thème chez lui à l'église. D'ailleurs, ça serait une première, cet échange cher avec cette communauté. Et le troisième volet, donc dimanche dans 15 jours, ça va être le pasteur Gérald Cid de l'église de la Beaujoire, notre église juste à côté, qui va nous apporter finalement la troisième partie. Et à ce dimanche-là, je prêcherai juste à côté. Pour montrer que finalement, nous avons un même message à partager. Une même foi à vivre et à partager. Et divers que nous sommes, et parfois éloignés, géographiquement, nous formons un seul corps, l'Église qui s'écrit avec un E majuscule à Nantes. J'ouvre une petite parenthèse, cette unité chrétienne est poursuivie dans la semaine à partir du 17. C'est la semaine de l'unité des chrétiens. Et vous avez reçu aussi des invitations à vous joindre à un groupe de maison pour faire connaissance des frères et sœurs catholiques et orthodoxe. Donc, profitons-en. Le retour des fils perdus. Aujourd'hui, le thème, tous révoltés. Les fils, tous révoltés, les filles, tous révoltés. Le texte est tiré en première partie de l'Évangile selon Luc, chapitre 15, les versets 11 et 12, et parce que c'est court, je me permets de vous faire la lecture. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage des biens entre ses fils. Avant le retour, parce que c'est le grand thème, le retour des fils perdus, avant le retour, c'est la révolte. Ce n'est guère possible d'interpréter autrement la demande du plus jeune fils. Réclamer sa part d'héritage, c'est rompre les amarres et commencer à creuser, écoutez bien, la tombe de son père. L'affront du jeune garçon là, ou jeune homme plutôt, l'affront est terrible. Avec quel droit il réclamait ce qu'il devrait lui revenir un jour? Ce jour n'est pas encore arrivé, car l'héritage est partagé après la mort des parents. Donne-moi aujourd'hui ce qui doit me revenir un jour. Précipité, il veut partir. L'affront est terrible. La blessure infligée au père est vive et la relation brisée, peut-être pas à ce jour-là, mais depuis un certain temps déjà. Donc dans cette relation, il y a désormais un avant et un après, mais pour le pire, mais pas pour le meilleur. On ne peut pas s'empêcher à penser à la révolte d'Adam, premier humain créé par Dieu. Ils avaient tous dans le jardin des délices. Jardin des délices, c'est la traduction française du mot Éden. Le paradis, comme on dit. Il avait tout dans le jardin des délices, mais il s'en est pas contenté. Pas content, pas content, pas content. Ça vous dit quelque chose? Et pour son malheur, il s'est pas contenté. Et c'était aussi pour le malheur de l'humanité entière. Parce que nous faisons comme Adam. Pas content, pas content. Autrement dit, nous sommes tous des révoltés. Ou nous l'avons été. Nous avons cru ou nous croyons encore parfois que les choses, peut-être ou certainement, iraient mieux si Dieu ne se mêle pas à chaque fois de ces affaires qui sont les miennes et pas les siennes. Certains disent, laisse-moi tranquille avec Dieu, c'est trop compliqué, c'est trop dérangeant. Les choses vont mieux si je suis mon seul chef. Olaf chef-chef. Comme il y a Saint-Michel, chef-chef. Je voudrais être chef. Être calife à la place du calife. C'est moi qui dirige. Dieu le Père, je m'en fous. Est-ce qu'on peut appeler ça la quête de la liberté? D'ailleurs, vous les jeunes, et les moins jeunes, d'une manière ou d'une autre, nous l'avons connu. À un moment donné de notre adolescence, la quête de la liberté, n'est-ce pas? Ou la maison, chez nous, ça c'est trop là. Il fallait fuir, il fallait quitter, c'était trop pesant. Cette situation familiale a été tellement pesante qu'il fallait trouver une liberté à nous-mêmes. Mais c'est pas dans cette histoire que Jésus raconte. Il n'y a pas de conflit. En tout cas, pas un conflit apparent entre le Père et le jeune fils. Est-ce la quête de la liberté dans laquelle nous refusons, dans laquelle nous nous révoltons à toute forme d'autorité d'ailleurs? Ni papa, ni maman, ni mon prof, ni la société. Et qu'est-ce que je sais encore? Parce que nous nous révoltons contre toute forme de tutelle. Nous ne voulons pas être sous la tutelle de quelqu'un. Nous voulons être notre propre chef. Vivre la vie comme nous le voulons. Se fier à soi-même. Vivre libre de toute contrainte. Si toutefois ça existe. Libéré de toute tradition. De tout enfermement. De toute tradition ou enfermement familial. Partir pour choisir notre propre chemin. Parce que nous voulons construire notre propre destin. Quelqu'un disait, les choix à chacun déterminent notre destinée. Ce sont nos choix, à nous, à des moments de notre vie, choisis, qui vont déterminer tout ce qui est encore devant nous. Nos choix à chacun déterminent notre destinée. Ce que vous serez dans 10 ans dépend pour une bonne partie, peut-être pour la partie existentielle, de vos choix que vous faites aujourd'hui. Vous dites, oh, c'est loin encore. Mais qui pense à qui je serai dans 10 ans? Tu seras la personne faite par tes choix, construit par les choix qui sont les tiens aujourd'hui. Quelles seront nos fréquentations aujourd'hui? Ça va déterminer pour une bonne partie la personne que tu seras dans 10 ans. Est-ce que tu vas leur ressembler? Est-ce que tu feras pareil comme eux? Quel temps prenez-vous avec Dieu à travers la lecture de la parole de Dieu? À la petite dose? Chaque jour? à la plus petite dose homéopathique possible. Ça va déterminer la personne que vous serez dans 10 ans. Si vous allez vous nourrir mal spirituellement, vous serez dans un mauvais état dans peu de temps. Donc comprenez ceci. Ignorer votre communion avec Dieu, votre Père, ou entretenir un péché secret, une révolte secrète. Se plaire avec des critiqueurs, ce sont aujourd'hui, pour votre futur, des véritables facteurs d'échec. D'ailleurs, le livre des psaumes commence exactement avec cet avertissement. Dis-moi qui sont tes amis, et moi je vais te dire quel type de personne tu seras. Le bon plan que notre Père Céleste a pour chacun de nous, nous l'avortons très souvent nous-mêmes avant que Dieu puisse le mettre en œuvre. Par notre propre niette, j'en veux pas, je me révolte. Je choisis d'autres choses. Le bon plan que notre Père Céleste a pour chacun de nous, nous l'avortons souvent nous-mêmes par les mauvais choix qui sont les nôtres. Les hommes et le diable ne pourront jamais vous empêcher de saisir la vie que Dieu veut vous donner. Les hommes et le diable n'ont aucune chance si vous voulez choisir la vie avec Dieu. Vous êtes les seuls. Nous sommes les seuls. Moi, je suis le seul qui ne peut pas rentrer dans le bon plan de Dieu. C'est mon choix à moi. En réalité, la seule personne capable de me séparer de Dieu, c'est finalement moi-même, par de mauvais choix et par de mauvaises attitudes, appris, cultivées, d'après les choix faits. Je quitte la maison de mon père. Je suis en colère. Je suis révolté. Je laisse toute chose derrière moi. Coupure nette. Et je commencerai une nouvelle vie. Ouf! Ouf, la maison de mon père. Ça s'éloigne. Et mieux, c'est plus que je sois loin. Une vie meilleure. Enfin, les poches remplies d'argent. Mon père a été soit aussi bête ou aussi gentil. Qu'est-ce que j'en sais? Au moins, il m'a donné mon héritage. Il m'a donné mon héritage. J'ai plus de soucis à me faire. Je suis un homme riche. La vie est devant moi. Le chemin est devant moi. C'était finalement un bon choix de me séparer de mon père. Combien de fois c'est notre propre orgueil qui a dicté ou qui dicte encore nos choix d'aujourd'hui et notre conduite. Moi d'abord, moi, moi, moi. Et après, encore moi et après les autres. Dans nos familles et dans nos églises, combien de conflits sont mal gérés et finissent mal. Par une séparation, la parole qui se tait, on ne se fréquente plus, on s'évite. Dans nos familles et dans nos églises, combien de conflits mal gérés et combien de pardons jamais accueillis et jamais accordés. Jamais accueillis et jamais accordés. Qu'est-ce que cela a fait avec nous? Tout cela a troublé et trouble encore aujourd'hui ma vie, mais pas d'une bonne manière. Comme beaucoup d'hommes et femmes et jeunes qui partent sous un coup de colère. Combien de relations, en famille ou en église, se brisent par un coup de colère, pour chercher de ce qu'on espère de meilleur, de bonheur. On va jamais trouver le meilleur et le bonheur si nous partons, si on se quitte sur un coup de colère. La colère n'a jamais fait quelque chose de bon. Jamais quelque chose de bon est né sur un coup de colère. Il y a une colère juste, certes. Mais un coup de colère n'a jamais produit quoi que ce soit de bon. Permettez-moi que je vous dise, le vrai bonheur se trouve dans une relation avec Dieu seul. Notre Père qui nous aime, qui nous a écrit, qui nous a créés, afin que nous puissions vivre et vivre pleinement et pleinement heureuses et satisfaites dans sa présence, dans le jardin des délices. Vous vous rappelez? Si l'homme a détourné le dos à son Père céleste, s'il a pris de la distance entre lui et son Père céleste, le message de l'Évangile, la bonne nouvelle est qu'aucune distance prise aujourd'hui ne peut être trop grande pour ne pas pouvoir être parcourue en retour. Qu'importe la distance que tu as prise par rapport à d'autres personnes de ta famille ou par rapport à ta relation avec Dieu, avec ton Église. La bonne nouvelle, il n'y a pas de distance trop grande pour Dieu pour ne pas pouvoir être parcouru en retour. Donc louons Dieu pour la patience à notre égard. Il reste fidèle si nous sommes infidèles, dit la Bible. La deuxième partie de ce message, homme riche, des poches pleines, enfin libre de papa, plus tutelle, mon propre chemin, mon propre destin à construire. Lisons la suite sous le thème de liberté illusoire. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays là. Il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes qui mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Avec la révolte, l'éloignement. Puisqu'il a symboliquement souhaité la mort de son père en réclamant son héritage avant l'heure, le cadet ne peut en profiter dans la maison paternelle. Il doit vivre cette nouvelle vie ailleurs. Il lui faut concrètement mettre de la distance entre lui et son père, faire comme si son père était mort et qu'il était vraiment autonome dans une autre vie. En quelque sorte, éloignant de sa maison familiale, en prendre distance entre lui et son père, pour lui, son père n'existe plus. C'était derrière lui. Coupure nette. Le futur est devant moi. L'expérience est doublement tragique, ce que vit ce jeune homme. La richesse de toute une vie de labeur, l'héritage, la richesse de toute une vie de labeur ne permet de mener grande vie qu'un bref moment. Et la mort souhaitée à l'autrui, son père, frappe brusquement à sa propre porte. Faute d'argent, les, disons, amis qui ont dépensé avec lui, qui ont mené grande vie avec lui, mon pote, mon ami, ami pour toujours. Faute d'argent, les amis disparaissent. Les besoins primaires ne sont plus satisfaits. Et il ne reste plus qu'une condition inhumaine pour tenter de survivre. Et vous voyez là, c'est une caricature finalement qui est dessinée dans cette histoire. Le fils cadet fait l'expérience de tous les fils d'Adam. De tous les fils d'Adam depuis l'entrée du péché dans ce monde. L'autonomie rêvée est transformée en cauchemar. Et la liberté n'était que illusion. Tout son héritage est dépensé. Il ne lui reste plus rien. Il est seul. Il est loin. Il est très loin même de la maison du Père. En conclusion, répondons-nous, si nécessaire, de tous nos éloignements coupables, éloignés des membres de notre famille, éloignements entre frères et sœurs, éloignements de l'Église, tout éloignement coupable, et répondons-nous aussi de nos illusions funeste. Sous couvert d'une liberté mal comprise, nous avons souvent blessé nos proches et nos amis et nous avons tourné le dos même à la bonne volonté ou à la volonté bonne de notre Dieu Père. Prions pour que notre génération ivre de liberté mais asservie par ses passions. Que Dieu puisse nous utiliser pour faire connaître sa compassion, la compassion du Père et de son salut pour tous les hommes. Louons Dieu, parce que tant qu'on peut dire encore aujourd'hui, c'est encore le temps du salut et de la grâce. Pour tous ceux qui se tournent vers lui, qui se détournent de leur éloignement, et qui retourne à la maison du Père. C'est pas pour rien que l'écrivain de l'Épître aux Hébreux écrit en chapitre 3, verset 15, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de votre révolte. » Prions pour nos parents, prions pour nos enfants, nos amis, nos voisins, pour tous ceux qui sont loin de Dieu et qui sont loin de l'Église. Peut-être il y a des personnes à qui vous pensez maintenant. Peut-être vous vous rendez compte de votre propre éloignement. Des personnes à qui vous avez tourné le dos. Des personnes avec lesquelles vous avez pris distance. Je vous invite à un temps de prière. Demandons pardon si nous sommes devenus nous-mêmes coupables par un éloignement, par un coup de colère, par un pardon non accordé ou pas accueilli. Prions pour les personnes qui nous sont chères. Prions à ce qu'ils puissent, aussi longs qu'ils puissent être ces personnes, qu'elles puissent être ces personnes, qu'ils retrouvent le chemin ou un chemin de retour. Et sur ce chemin, le salut et le pardon. Prions. Seigneur, marcher sans toi, en voulant trouver le bonheur et notre salut. Sans toi, ce n'est pas possible, c'est une illusion. Pardonne-nous les nombreuses fois où, sous des coups de colère, ou d'autres raisons, nous avons tourné le dos à toi. Pardonne-nous nos éloignements dans la foi ou dans les relations avec les personnes avec lesquelles tu nous as mis à vivre. Seigneur, nous voulons nous rendre compte que c'est uniquement auprès de toi que nous trouvons notre vrai bonheur, le vrai pardon, la même réconciliation. Seigneur, garde-nous de toute forme de liberté illusoire. Fais-nous marcher droit à côté de toi, restons dans ta présence. Amen. Voilà, c'était la première partie de cette trilogie sur le retour des fils perdus. Dimanche prochain, retour sur soi et petit recommencement. J'aime bien ce titre. Retour sur soi et petit commencement. Et ça serait donc le pasteur Bruno Hassan de la communauté biblique des campus. Leur église se trouve près du campus universitaire dans une maison parce que c'est une église naissante depuis quelques années. Donc, faites-lui bon accueil et voilà la deuxième partie dimanche prochain.